franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour. Nous reprenons notre traversée du Morbihan. Avant de vous donner le sommaire, Claire, merci à elle, nous informe de l'excellent travail réalisé par l'atelier vidéo du studio Cartoon à Ploermel. Cartoon s'écrit K-E-R-T-2-O-N. Cet atelier que dirige Roger Malot initie les enfants et les jeunes à la technique vidéo et leur offre la possibilité de réaliser leur propre film. Alors, il y a beaucoup d'associations de ce genre en France. Toutefois, le dernier film réalisé d'une autre envergure, puisqu'il dure 1h50, il est le fruit de 3 ans de travail. Intitulé « L'impasse », il traite du harcèlement que certains jeunes peuvent exercer ou subir sur d'autres dans le cadre scolaire ou extrascolaire. Tout est fait sur le mode du long métrage professionnel. Et je vous assure, le résultat est confondant. Déjà multi-récompensé, le film est projeté dans de nombreuses villes de France. Et vous pouvez voir sa bande-annonce sur le site du studio, c'est cartoonstudio.fr. Au menu de jeunes navigateurs du Morbihan qui relèvent un défi absolument fou du tour du monde à la voile zéro déchet. Nous allons rejoindre dans un court instant Brendan Goumont qui est au large du Portugal. Mathieu Bostin est quant à lui un des coupables de la petite révolution qui métamorphose la commune rurale d'Augan. La raison de cette transformation est la coopérative du champ commun. Ça aurait pu être du champ libre, c'est du champ commun. Franchement, elle nous a impressionnés, tout comme l'aventure folle de notre premier invité.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Brendan Goumont, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Brendan est depuis Lisbonne, c'est une des premières étapes de son tour du monde, absolument fou à la voile. Alors pourquoi absolument fou? Parce que c'est le zéro déchet, ça s'appelle « Sailing for Change ». Changer la situation sur Terre, comme en mer, des déchets à la dérive, 270 000 tonnes de déchets plastiques dans les mers et les océans, 5 milliards de morceaux de macro-déchets dans les surfaces bleues de la Terre, c'est inimaginable, mais c'est quand même une réalité. C'est un peu fou, donc vous êtes parti avec Igor Joachim Robin sur un jean fizz qui s'appelle l'écolibri, donc il y a écologie et colibri.
Exactement, ouais. C'est un mélange entre le breton et le français, donc écolibri avec un K pour écologie en breton, et le colibri donc qui se rattache au mouvement de Pierre Rabhi qui prône voilà le fait de chacun de faire sa petite part du travail pour en faire de grandes choses.
Ouais. Vous avez croisé le Vendée Globe ?
Alors non, malheureusement, on a dû partir juste après pour des questions de météo. Mmh. Mais on les suit et d'ailleurs on a un des skippers que nous suivons qui est Thomas Ruyant, qui lui est aussi un colibri avec son projet.
Oui. Est-ce que c'est pas une utopie de vouloir rendre compte d'un tour du monde à la voile, même entre amis bien préparés, avec une équipe à terre qui vous suit évidemment, dans le cadre du zéro déchet? Ça paraît tellement symbolique au milieu de cet océan.
Oui, c'est vrai qu'il y a une grande part de symbolique, mais il faut savoir aussi que c'est assez faisable finalement, avec une bonne préparation et des gens qui nous aident comme Bea Johnson, qui est la pionnière du zéro déchet. Et nous, c'est vraiment un défi qu'on souhaite relever pour montrer ce qu'on va être capable de faire et aussi des limites qu'on va rencontrer pour que tout un chacun ensuite puisse le faire soit sur son voilier, soit à la maison et faire de son mieux.
Oui, parce que là, ce que vous allez prôner pendant ce tour du monde, c'est une autonomie alimentaire, une autonomie énergétique.
Voilà, en grande partie, c'est ça. Donc, au niveau alimentaire, on s'est équipé de bidons hermétiques ou de bocaux en verre pour faire des conserves. Et au niveau de l'énergie, on a l'énergie solaire et l'énergie cinétique de notre bateau, donc grâce à une hydrolienne. Et donc, grâce à ça, on a déjà aucun rejet. Et on évite évidemment tout ce qui est emballage qu'on peut trouver dans les centres commerciaux classiques, en France ou même à l'étranger, partout.
Ouais, et pour les déchets organiques, vous avez vos poules à bord.
Exactement. C'est autant pour le compost organique que pour la compagnie, puisqu'on est 4 garçons à bord et deux petites poules, c'est aussi sympathique pour agrémenter le voyage.
Alors, il y aura des reportages, évidemment, des réalisations qui se feront aux escales, entre autres. Qu'attendez-vous de ces escales? Est-ce que vous allez rencontrer un public? Est-ce qu'il va y avoir des débats? Est-ce qu'il va y avoir des échanges?
Alors oui, notamment en Afrique du Sud, où on va réaliser une conférence sur le thème des déchets, notamment des déchets plastiques, donc grâce à une entreprise qui s'occupe de ce secteur en Afrique du Sud.
Sur ce premier trajet, vous en avez croisé des déchets?
Alors oui, on a pu croiser des cagettes de pêche ou des boules qui sont sur les filets de pêche.
Ouais.
On a aussi croisé quelques bouteilles plastiques, et puis sinon, pas tellement finalement. Mais on pense en voir beaucoup aux abords des îles, parce que bon, en France c'est pas parfait, mais il faut savoir aussi que souvent à l'étranger c'est parfois moins bien fait. Donc en fait, il faut savoir que les déchets ils se déplacent beaucoup et ils vont surtout se regrouper dans les gyres océaniques qu'on peut retrouver aux quatre coins de la Terre. On considère qu'il y a 5 gyres océaniques qui sont des gros tourbillons en fait, où les déchets viennent se regrouper. Et ça, donc on devrait en croiser, notamment dans le Pacifique.
Combien de temps vous vous donnez pour faire ce tour du monde?
Alors ce tour du monde et ce projet, ils ont été basés sur une période de 2 ans. Donc 2 ans à 4 avec voilà, peut-être un petit peu de modification du trajet, soit par rapport aux rencontres qu'on pourra faire, soit par rapport à la météo.
Votre aventure est belle. Moi, la première question que je me pose, Terrien, toujours peur de son calendrier, comment se rendre disponible sur une telle durée?
Alors, on a tous travaillé pendant 1 an ou un petit peu plus pour mettre de l'argent de côté pour ce projet. Et c'est vrai qu'on a dû quitter tous nos travails. Alors, en sachant, on s'est posé la question, est-ce que ce sera valorisable sur un CV, évidemment,
ouais.
C'est pas 2 ans de vacances, donc la réponse elle est oui. Et pour avoir parlé avec des personnes travaillant dans des grandes entreprises, ce sont des valeurs qui sont recherchées, le fait de voyager, de savoir monter un projet et être sûr de soi, c'est vraiment quelque chose qui va être positif pour nous.
Bien sûr, ça j'imagine. En tout cas, bravo pour cet immense projet, sailingforchange.com. Il y a aussi la page Facebook et puis vous allez avoir les reportages réalisés aux escales en série bimensuelle sur la chaîne YouTube Comment vivre zéro déchet. Voilà pour toutes les infos. Super projet. Merci Brendan.
Merci beaucoup à vous.
Bon
et à bientôt.
Et à bientôt. Merci. Agnès, correspondante des carnets, merci à elle, évoque une situation qui la concerne directement, puisque son vieux père est depuis 3 ans logé dans un dispositif dit de domicile partagé, réservé aux personnes, on l'appelle personnes désorientées, comprenez des personnes âgées, atteintes de troubles de la mémoire, de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Ces domiciles partagés sont des petites unités de vie pour 8 personnes, encadrées par des auxiliaires de vie. Et une personne en charge aussi de la veille de nuit. La restauration est assurée sur place. Le bâtiment est propriété de la commune qui en a assuré l'équipement. Et depuis la première unité construite en 1992, la structure a bien évolué. Et les domiciles partagés couvrent une bonne partie du département du Morbihan. L'intérêt est de garantir l'équivalent d'une vie à domicile par sa taille humaine, par son esprit familial et son implantation au cœur de la commune. Ce dispositif est le fruit du travail de terrain du CARPA, qui est un comité de liaison et de soutien aux associations de retraités. Le CLARPA garantit aux adhérents des tarifs réduits, par exemple auprès des commerçants, des services de proximité, des partenaires, comme les mutuelles, les assurances, mais surtout le promoteur des principales actions de maintien à domicile dans ce département. Le CLARPA 56 conseille plus de 40 communes du département. Son site, c'est clarpa56.fr. Mathieu Bostin, bonjour.
Bonjour.
Mathieu, j'ai sous les yeux un magnifique article que Libération vous avait consacré il y a 2 ans à Augan, dans votre village de 1500 habitants. L'îlot du village, évidemment, c'est l'inverse de l'idiot, puisque c'est un programme très intelligent que vous avez conçu avec le Champ commun. En fait, si j'ai bien compris, vous étiez quelques amis originaires du nord de la France, établis dans le Morbihan.
Oui, entre autres. Mais le Champ commun, c'est bien plus que quelques amis du nord de la France. C'est avant tout les amis. habitants en fait d'une commune dont vous venez de parler, au Gand, dans le Morbihan, qui depuis maintenant quelques années ont décidé de rassembler leurs envies et leurs énergies pour créer une maison commune, le champ commun, celui que on partage, pas celui de la bagarre de chacun son morceau. Tout simplement tente de proposer à travers le commerce de proximité un lieu de rencontre quotidien où on peut se penser ensemble.
On peut partager une philosophie de vie, mais ensuite c'est de passer à l'acte, ce n'est pas toujours facile, et surtout de créer des emplois.
Oui, tout à fait, parce que maintenant, depuis 2010, donc on est dans notre 7e année, la coopérative a créé 9 emplois. C'est une des vocations d'ailleurs de la coopérative. Hein. La coopérative, sa raison d'être, ça a été de maintenir, et c'est toujours d'ailleurs de maintenir le commerce de proximité en milieu rural. Mmh. Et c'est ce qui a rassemblé les 160 associés qui ont pris part au capital de la coopérative. Et à travers ça, c'est également créer des emplois pour les habitants, au service des habitants. Et bien sûr des emplois qui tentent, dans la mesure des possibles économiques de la coopérative, de répondre aux meilleures conditions de ceux qui travaillent.
Et vous nous dites donc que le champ commun est né d'une coopérative grâce à 160 associés ?
C'est ça, tout à fait. Donc c'est 160 habitants, sympathisants, membres de la famille de chacun des acteurs qui ont créé le projet, qui ont décidé de mettre ensemble ce qu'on appelle un capital social, parce qu'on est une société, une société coopérative, mais une société.
Ouais.
Donc à partir de ce capital, notre trésor commun, on a pu investir et puis créer les différentes activités que nous menons actuellement.
Ouais. Alors il y a la participation, ça a été les chantiers pour établir ce qui va devenir l'épicerie de garde à manger, le bar café-concert L'Estaminet que j'ai cité, et puis une micro-brasserie. Mais chacun a mis un petit peu de sa poche. Alors c'était quoi en moyenne la participation des 160 associés ?
La moyenne, je pense que c'est avant tout une part, en fait, parce que toute participation compte. La part sociale au champ commun, c'est 100 euros, une part, donc c'est quand même une somme qu'il faut sortir pour certains. Mais la coopérative est fondée sur un principe fondateur de l'économie sociale et solidaire. Peu importe le capital, une personne égale une voix. Donc on a des associés qui ont mis 10 000 euros, puis des associés qui ont mis 100 euros, et chacun a la même voix au chapitre.
Oui. Et ensuite, leur participation se concrétise par quelque chose de précis, ou ils restent simplement associés extérieurs pendant que les salariés évoluent à l'intérieur de ce que vous avez constitué ?
Non, le projet, c'est vraiment investir et s'investir. C'est comme ça qu'on a, nous, nommé l'invitation à participer, puisque c'est une invitation, et que, certes, l'argent permet, parce que c'est un moyen de réaliser des investissements qui créent l'outil, mais après, cet outil, il faut le faire vivre, et puis la coopérative, c'est une invitation à l'aventure humaine, et donc à venir participer aux différentes instances de décision, puisqu'on a tout un organigramme avec un comité de soutien à la gérance, 6 commissions qui travaillent autour des différentes activités que nous proposons, on a une instance permanente qui rassemble les salariés de la coopérative, plus les salariés des associations associées qui œuvrent avec nous sur le lieu, dont une radio locale. Et donc, c'est cette participation-là qui nous intéresse aussi, et j'ai envie de dire le plus, c'est celle des personnes qui se mêlent de ce qui les concerne et qui viennent donc réfléchir avec nous, prendre leurs responsabilités et s'investir aussi par leur présence. Et au-delà des commissions, il y a aussi la possibilité de venir en tant qu'associé faire fructifier son entreprise en étant présent dans les activités en tant que telle.
J'ose le dire, au champ commun, ce sont des champions et c'est pas si commun que ça.
Dans tous les cas, on a un leitmotiv qui nous plaît beaucoup, qui est tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin.
Ouais, ça, vous avez piqué ça à Confucius.
On lui pique.
Ouais, d'accord. Je sais pas si c'est de lui d'ailleurs, mais c'est une citation qui est effectivement.
Nous sommes sûrement des héritiers.
Oui, mis en avant. Merci pour le témoignage et bravo pour ce que vous réalisez. Vous, gérant de la coopérative du champ commun, lechampcommun.fr, il y a une page Facebook également. Merci Mathieu.
Merci à vous, à bientôt.
À vous Cognac J, ça doit rappeler quelques souvenirs à certaines personnes. Enfin, les plus de 50 ans, peut-être plus de 60, je ne sais plus ce qu'il faut dire maintenant. On va parler d'une autre version de Cognac Jay, d'un couple, Ernest Cognac et Marie-Louise Jay, qui étaient fondateurs de La Samaritaine. Et le couple, ayant fait fortune, a décidé de développer des œuvres de bienfaisance en faveur des plus démunis, s'intéressant en particulier au sort des orphelins, l'éducation des enfants nécessiteux, aux difficultés rencontrées par des employés de commerce au moment d'une naissance ou durant la vieillesse. Ils créèrent une fondation en 1916. Autrement dit, cette fondation a 100 ans cette année et à cette occasion, la fondation qui s'ouvre maintenant à des versions solidaires beaucoup plus larges que les points fondamentaux de départ de ses objectifs, a décidé de créer un prix. C'est le premier du genre qui sera remis demain à Paris au 104. Alors, vous n'êtes pas obligé d'y aller, évidemment, mais je le signale parce que en France, il y a 4000 fondations, on l'oublie, et de nombreuses œuvres en faveur des solidarités. C'est le cas avec celle-ci, Fondation Cognac-Jay. Il y a eu 350 candidatures, associations coopératives, nouveaux acteurs issus de l'entrepreneuriat social, sur le thème « Inventer la solidarité sociale de demain ». Si vous êtes intéressé pour découvrir cette fondation comme je viens de le faire, enfin comme je l'ai fait il y a quelques jours, le site c'est cognac-jay.fr. Voilà pour cette œuvre et une de ces 4000 fondations qui existent en France. Demain, on reviendra à une maison extraordinaire, Maison des Aidants dans le Morbihan, pour les aidants, des personnes qui ont des soucis, surtout les personnes âgées présentant des maladies neurodégénératives. Et puis on parlera d'une ostréiculture traditionnelle et naturelle qui revient, qui produit des huîtres, nées et élevées en mer.